qui sont morts sans la loi, et qui sont morts avant Jésus-Christ et qui sont morts même sans la loi, c'est-à-dire avant d'avoir reçu la loi de Moïse, qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qui arrive pour eux qui sont décédés? Et l'apôtre Paul nous met en lumière certaines choses en Romains chapitre 2, verset 14-16. Il dit, « Quand des non-croyants qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux. Bien qu'ils ne l'aient pas, ils prouvent ainsi, que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. » Je suis calviniste, mais pas les cinq points du calvinisme. Et un des points que je ne suis pas, c'est celui que l'homme est totalement dépravé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une conscience à l'homme. Dieu a donné une conscience à l'homme, mais dans le Proverbe chapitre 20, il nous est dit que la conscience est la lampe que Dieu a donnée à l'homme pour sonder les profondeurs de son âme. Si Dieu n'avait pas donné la conscience à l'homme après la chute, l'homme se conduirait exactement comme les animaux se conduisent. Il fonctionnerait uniquement par instinct de survie. Dieu nous a donné une conscience après la chute, et cette conscience, c'est une grâce qu'il nous a faite. Il n'y a pas de danger, je suis électrocuté, non? C'est la conscience. Alors, je crois ce que la parole dit, de Dieu dit, parce que de dire que l'homme est complètement, totalement dépourvu totalement corrompu, ça c'est de la théologie. Bibliquement parlant, on ne trouve aucun verset qui soutient cette thèse. Par contre, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Ça, c'est toute la différence. La conscience peut nous amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle peut être influencée par notre nature humaine. Ça, c'est très important. L'apôtre Paul parle de certains chrétiens dont leur conscience leur permet de faire certaines choses, et il parle de d'autres chrétiens dont la conscience ne leur permet pas de faire certaines choses. Donc, il dit que c'est une question de conscience. Vous ne voulez pas manger de ça, c'est une question de conscience, n'en mangez pas. Vous pensez que vous pouvez en manger, c'est une question de conscience, vous pouvez en manger. Donc, pourtant, c'est la même conscience qui parle, mais qui parle différemment à des gens qui connaissent le Seigneur. Par exemple, si vous avez grandi dans l'islam et que vous vous convertissez ensuite au christianisme, vous pouvez ressentir une certaine culpabilité à ne pas assister à la prière de la mosquée au tout début. Et ce, parce que vous êtes tourmenté par votre conscience, parce que c'est quelque chose qu'on vous a enseigné, qu'on vous a éduqué pendant un certain nombre d'années. Il fut un temps dans certains milieux chrétiens, on défendait aux membres d'aller au cinéma. Certains ont osé aller voir les 10 commandements ou même encore Ben Hur. Et même s'il n'y avait rien de mal à cela, leur conscience les accusait quand même. J'ai parlé avec des chrétiens qui me disaient, « Écoute, on était au cinéma, on surveillait s'il n'y avait pas un ancien de l'Église qui viendrait voir s'il y avait des chrétiens de l'Église qui étaient venus voir des films. » Leur conscience, c'est leur conscience qui les accusait. Tout cela pour dire que la conscience peut être influencée par des interdits imposés par des hommes. Je dois maintenant vous rappeler que votre conscience possède un énorme pouvoir. Un énorme pouvoir. Elle peut vous détruire. Elle peut vous hanter, elle peut être présente le jour comme la nuit. Il faut d'abord dire que le problème avec la conscience, c'est qu'elle ne vous tourmente pas avant que vous ayez fait quelque chose de mal. Non, elle demeure silencieuse, mais après que vous ayez fait ce que vous ne deviez pas faire, elle va vous venir vous hanter particulièrement la nuit, vous le rappelant lorsque vous vous mettez au lit, jusqu'à votre réveil le lendemain matin. Et c'est souvent la conscience qui amène des gens à passer des nuits blanches. C'est même la conscience qui amène des gens à se suicider. C'est même la conscience qui amène des gens à vivre dans la culpabilité toute leur vie. Un médecin écrit un jour ceci, « Je pourrais voir la moitié de mes malades être guéris si je pouvais juste les regarder dans les yeux et leur donner l'assurance qu'ils sont pardonnés. » Aujourd'hui, nous allons parler de la honte qui accompagne le péché, du réconfort énorme qui pénètre dans nos cœurs lorsque nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés et que nous avons une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce que Paul dit, rappelle dans l'Épître aux Timothées. Assure-toi d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, même après la chute, lorsque l'homme et la femme t'ont désobéi, de ne pas nous avoir abandonnés, Seigneur, mais de les avoir recouverts, Seigneur, de peau d'animaux, mais aussi de leur avoir donné une conscience, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, entendre, Seigneur, ce qui est bien, ce qui est mal, et faire le libre choix de choisir entre le bien et le mal. Seigneur, merci aussi, Seigneur, parce que pour ceux qui te connaissent, pour nous qui ne te connaissons, Seigneur, tu nous as maintenant donné ton esprit. Ton esprit, Seigneur, qui nous enseigne toute vérité. Ton esprit qui nous vivifie. Ton esprit qui est là, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, tes commandements, nous rappeler ton amour, nous rappeler ton pardon, ta grâce, mais aussi, Seigneur, le privilège que nous avons de pouvoir t'appartenir. Merci pour cette empreinte, Seigneur, qui s'appelle Jésus-Christ et qui est venu sur la terre. Seigneur, nous sauver, nous racheter et faire de nous, Seigneur, des citoyens du royaume. Ce matin, Père, bénis cette parole, qu'elle puisse toucher le cœur de tes enfants, tous présents ici ce matin. Et s'il y en a qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas l'assurance, Seigneur, de t'appartenir, eh bien, qu'à la fin de ce message, Seigneur, ils puissent vraiment t'ouvrir leur cœur et t'inviter, Seigneur, à faire en sorte que tu deviennes leur Seigneur et leur Sauveur. Bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Pouvez-vous imaginer à quoi pourrait ressembler l'Église de Dedelin si chaque membre qui en fait partie cherchait à vivre comme le faisaient les chrétiens de l'Église primitive? Actes chapitre 2, versets 46-47. Eh bien, ce serait une réalité vivante. Ces deux passages dans Actes chapitre 2, les versets 46-47, seraient une réalité vivante. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et regardez le résultat. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est d'imiter ce qui se passait à l'Église primitive. Chercher à se rencontrer le plus souvent possible et pouvoir louer Dieu, prendre notre nourriture ensemble avec simplicité de cœur et avec joie. Louer Dieu ensemble, adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Frères et sœurs, notre témoignage en tant que chrétien va attirer les autres à Jésus-Christ. On vit dans une époque d'Église où on est très, très individualiste. C'est chacun pour soi. On a perdu en tant que chrétien cette culture chrétienne qui animait les chrétiens du premier siècle. Ils se réunissaient à chaque jour. Ils avaient tous en commun. Parce qu'ils avaient l'assurance aussi que le Seigneur reviendrait à leur époque. Et toutes les générations de chrétiens où l'Église était active croyaient que le Seigneur reviendrait à leur époque. Et frères et sœurs, encore aujourd'hui, je le répète, quand on voit tout ce qui se passe autour, le Seigneur est proche. Et frères et sœurs, plongez vos yeux dans la parole parce que les bûchers vont s'allumer bientôt. La persécution, elle s'en vient. Très proche en France, cette semaine, un projet de loi a été déposé. Vous n'aurez plus le droit de parler de religion dans aucune crèche, qu'elle soit publique ou privée. Privée! Ça veut dire que si vous mettez crèche chrétienne, vous n'aurez plus le droit de l'afficher. Et quand la France a le rhume, eh bien, la Belgique tousse. La Belgique, elle copie, en fait, ce que la France fait. Et ça va arriver très bientôt, frères et sœurs. Et si vous vous fiez sur vos instincts pour passer à travers la persécution, vous allez trahir vos frères et sœurs. Ce que Paul dit, nos enfants vont nous vendre. Nos enfants vont nous trahir. C'est la parole, c'est pas moi qui le dis. Les frères et sœurs, l'amour du plus grand nombre va se refroidir et on va trahir les uns les autres. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous êtes équipés pour faire face à ça? Vous ne sentez pas le vent? Ça s'en vient. Tout se met en place. Vous ne pouvez pas être dans la joie à moins que votre conscience soit libre de tout sentiment de condamnation. Vous ne pouvez pas croire que Dieu va vous donner les choses que vous lui demandez si votre conscience n'est pas pure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben oui. L'apôtre Jean écrit, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons l'assurance que Dieu nous écoute et que Dieu va nous exaucer. Si notre cœur ne nous condamne pas, si votre cœur vous condamne ce matin, vous pouvez croire, mais vous ne pouvez pas regarder Dieu avec assurance. » C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui l'a dit dans sa première épître. N'est-ce pas là une aspiration bien légitime que l'Église de Dlin soit un endroit où les gens peuvent partager leurs besoins, partager leurs fardeaux et leur passé tout en sachant qu'ils ne seront pas pointés du doigt à cause de leur mauvaise expérience du passé? Quelle joie de savoir que des gens peuvent rentrer ici le dimanche, que des gens peuvent nous appeler, nous partager leur passé, nous partager leur fardeau et nous demander de prier parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance aux gens qui font partie de cette Église. Quelle joie de savoir quand j'entends des nouveaux qui viennent me trouver et me dire « J'ai confessé ça à quelqu'un, il m'a soutenu, il m'a dit qu'il me soutiendrait dans la prière, j'ai eu ma délivrance et je loue le Seigneur. » Quelle joie, quelle joie. Qui sommes-nous pour accuser qui que ce soit? Hein? Si c'était une pierre ce matin, je vous la prêterais, je dirais que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Quelle joie de savoir que frères et sœurs, on bénéficie de la grâce de Dieu qu'on est ici pour s'aider de se rappeler que l'Église est un grand hôpital où quiconque le désire peut trouver la guérison à cause de son passé, à cause de sa vie de péché, de la honte provoquée par son péché. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a non seulement pris sur lui notre péché, mais aussi la honte qui était rattachée. Ça, c'est une autre chose qui est attachée à la croix. Non seulement on reçoit le pardon de nos péchés, non seulement le Seigneur nous a délivrés de la puissance que le péché exerce sur nous, mais aussi de la honte qui accompagne tout ce qu'on a fait en tant que pécheur. Il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter la honte de leur péché et qui mettent fin à leur jour. Et il est bon de savoir que la parole nous dit que Christ a assumé cette honte sur la croix, qu'il a pris sur lui cette honte. C'est extraordinaire. Merveilleux. Je vous invite maintenant à tourner avec moi, là où la conscience a commencé à se manifester, à savoir dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, où Adam et Ève sont dans le jardin et vivent dans un environnement parfait. Pouvez-vous imaginer que tout ce qui les entourait était beau, était bon et était parfait? Pouvez-vous imaginer? Ce n'était pas Disneyland, c'était beaucoup mieux que Disneyland. On appelle ça le jardin d'Éden. C'était un endroit merveilleux, un endroit magnifique, que les hommes n'avaient pas commencé à manipuler pour transformer, mettre ça à leur image, à leur façon de voir les choses, mais que c'est Dieu qui l'avait créé directement, ce jardin. Et ce qui est important, c'est que l'homme et la femme étaient en étroite communion, une communion parfaite avec le Créateur qui se promenait le soir, lorsque la brise arrivait, qui se promenait dans le jardin. Ève ne souffrait, et il faut rappeler aussi, Ève ne souffrait d'aucune insécurité. Elle n'avait pas à rivaliser avec des top modèles qui apparaissent dans différentes réclames publicitaires. Elle n'avait pas besoin de demeurer éveillée la nuit pour savoir si son mari rentrerait ou pas. Elle ne se posait même pas la question si elle avait marié le bon gars. Elle n'avait pas ce problème, et pourtant, comme vous le savez, elle et son mari vont décider de pécher. Examinons maintenant la décision qu'ils ont prise au chapitre 3. Le serpent va venir vers eux et il va les amener à douter de la parole de Dieu. Ils auront un dialogue ensemble que vous connaissez probablement. Mais au verset 4, le serpent dira à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Étant capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et en français courant, j'aime bien parce que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit que c'est l'arbre qui donne la connaissance entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ève, tu te demandes peut-être ce que cela vous apporte, dit le serpent. Eh bien, vous allez voir, vous allez savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous pourrez alors décider vous-même ce qui est bien ou mal parce que vous allez prendre la place de Dieu. Frères et sœurs, on est dans une société où l'homme veut prendre la place de Dieu. Non seulement il veut prendre la place de Dieu, mais l'homme dans la société d'aujourd'hui à travers la science est en train de se prendre pour Dieu. Il manipule des choses génétiquement parlant qui sont extrêmement dangereuses. Il y a une multinationale qui vend des graines à travers le monde entier, qui promouvoit les OGM, qui est en train de prendre le contrôle des graines mondialement parlant. Moi, j'ai commencé à essayer de semer des tomates. Hein. À l'âge que j'ai, je me suis initié à la terre. Et j'ai mangé une tomate et j'ai recueilli des graines et j'ai dit, le printemps prochain, je vais les semer. Je les ai semées, puis j'arrosais, puis il n'y avait rien qui poussait. Et là, j'ai dit, au bout d'un mois, c'est quand même pas normal. Tourne le pot à l'envers, regarde à l'endroit, il n'y avait rien qui poussait. Et j'ai appris que j'avais mangé une tomate OGM. Et qu'une tomate OGM, eh bien, les graines ne se reproduisent pas. Ça prend une tomate qui était avec des graines naturelles. Et l'enjeu de cette multinationale, c'est finalement d'en arriver à faire accepter par les gouvernements qu'on puisse vendre à grande échelle les graines OGM pour qu'on puisse dépendre d'eux pour acheter des graines, pour acheter des tomates, parce qu'ils vont nous vendre les tomates, quoi. Et on n'aura plus de graines pour pouvoir semer. Et ça, ça va dans le maïs, ça va dans n'importe quel domaine. L'homme manipule génétiquement la nature et on a, sans savoir ce qui peut arriver. On est en train de transformer des mouches, transformer des moustiques pour aider à l'agriculture. Et le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé encore de produits de pesticides et d'insecticides pour les tuer, par exemple, parce qu'ils ont été modifiés génétiquement parlant. Et Bill Gates, qui est le président de Microsoft, a mis en garde l'humanité parce qu'il y a un reportage qui est passé à la télévision. On est rendu dans une génération de robots qui pensent indépendamment maintenant de l'homme. C'est incroyable, hein? Les Terminators et tout ça, on est rendu dans cette génération, on entre dans cette génération. Hein? Le robot n'aura plus besoin de l'homme pour faire ce qu'il a à faire. Il est capable de décider par lui-même. On est rendu dans cette génération où le robot est capable de décider par lui-même ce qu'il doit faire. Frères et sœurs, on est loin du Jardin d'Éden. Mais en même temps, depuis le Jardin d'Éden, le serpent chuchote aux oreilles de l'homme qu'il est capable de faire comme Dieu, de devenir un Dieu. Ce qu'il a dit à Ève, c'est ceci. Ève, arrête de penser, agis en fonction de ce que tu ressens. L'arbre est là devant toi. Est-ce que les fruits de cet arbre ne sont pas agréables? Regardez, penses-tu au plaisir? Pense au plaisir que tu vas en retirer. Frères et sœurs, le péché cache toujours son vrai visage derrière la tentation. Il met en lumière le plaisir que nous pouvons retirer, mais jamais, jamais la conséquence. Jamais. Jamais. Si le serpent était arrivé à Ève, il avait dit, écoute, il avait montré le plaisir et les conséquences, je ne suis pas convaincu qu'Ève aurait tombé. C'est à partir du jour 1 où il l'a tenté, jusqu'en l'an 2015, il lui avait montré toute la misère, les malheurs, les guerres, les suicides, les abus sexuels, tous les abus de toutes sortes qu'il y aurait sur la terre, je ne suis pas convaincu qu'Ève aurait pris la responsabilité d'assumer tout ça à travers sa décision. Mais il lui a fait mervoiter le plaisir d'en retirer. Tu seras comme Dieu. Pense pas, ressens les choses, Ève. Et on est dans une génération qui vit par les sentiments, la raison n'a plus sa place dans notre société. C'est ce que tu ressens qui est important. Et non pas ce que tu penses, ce que tu ressens. Vis ta vie comme tu le ressens. Et Ève a succombé, elle a pris de son fruit et en mangea, et elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et ils en mangea, verset 6. Vous connaissez le sujet, la suite de l'histoire, ils ont vécu ce que nous pouvons appeler une expérience à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et nous savons qu'ils ne pouvaient pas prédire quelles en seraient les conséquences lorsque Dieu avait dit à l'homme, « Ne mange pas du fruit de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Le texte hébreu ne dit pas « tu mourras », le texte hébreu nous dit « tu vas mourir, sois-en certain. » Sois-en certain. Ils n'avaient jamais vécu une seule expérience avant la mort. Et ils se sont probablement dit à eux-mêmes, notre situation ne sera sûrement pas différente si nous mangeons du fruit de cet arbre qui donne de la connaissance du bien et du mal. Si nous ne le faisons pas, nous demanderons toujours ce que nous serions devenus si nous en avions mangé. Nous ne pouvons pas ne pas essayer. Ce que nous allons faire, c'est de manger du fruit de cet arbre. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient commencer une série de dominos, que tout ce mal que nous avions péché contaminerait jusqu'au dernier jour toute l'humanité. Ils n'avaient aucun moyen de prédire les conséquences que pourrait avoir leur désobéissance, ni la nôtre non plus. Et parfois, ces conséquences ressemblent à un ballon de basket que vous voyez flotter à la surface de l'eau et que vous commencez à l'enfoncer le plus profond possible en pensant que finalement, vous en êtes définitivement débarrassé. Et vous vous apercevez quelques secondes après que finalement, le ballon de basket, il remonte à la surface de l'eau. Et vous pouvez recommencer, le ballon de basket, il va toujours remonter à la surface de l'eau. Et frères et sœurs, il en est de même avec le péché, parce que toutes les conséquences du péché sont inattendues, mais toujours remplies de mauvaises surprises. Parlez-en, roi David. Examinons maintenant ce qui est arrivé ici. Le péché a éveillé leur conscience, et avec la conscience est arrivée la honte. La honte, elle apparaît avec la conscience, frères et sœurs. Regardez ici au verset 25. Ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Puis au chapitre 3:8, il est écrit, « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Frères et sœurs, je vais essayer d'étirer le texte, parce que ce qu'on a ici, c'est sûrement pas, il ne s'est sûrement pas passé juste une page ou deux dans le jardin d'Éden, hein, après la chute, et ça doit avoir brassé pas à peu près, entre le couple et aussi se cacher. Ça n'a pas pris 3 secondes, le temps qu'on lit le verset, pour qu'il disparaisse. Hein? Mais j'aimerais simplement, je ne vous dis pas d'en faire un dogme, mais j'essaie simplement d'imaginer ce qui s'est passé. Chapitre 3, verset 8. « Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. » Remarquez la responsabilité de l'homme ici. Il n'appelle pas la femme qui est tombée la première. La responsabilité, c'est l'homme. Et il lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu lui dit, ça c'est extraordinaire la question qu'il lui pose, hein? « Qui t'a appris, Adam, que tu étais nu? » Parce qu'Adam et Ève, ils ont toujours été tout nus. Adam et Ève, comment ça se fait qu'aujourd'hui, qui t'a appris que tu étais nu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Comment savez-vous, Adam et Ève, que vous êtes nus maintenant? Est-ce que moi, je vous ai déjà dit que vous étiez nus? Y a-t-il un petit oiseau dans le jardin qui vous a crié, « Hé, Adam et Ève, vous êtes nus, cachez-vous! » Qui vous l'a dit? Frères et sœurs, leur conscience. Vous pouvez souligner le verset ici dans votre Bible parce que c'est là que tout a commencé. Tout à coup, la honte sera une des conséquences énormes qui accompagnera le péché. Et ce que la honte vous pousse à faire, c'est vous cacher. Et vous cacher amène à un autre péché qui est celui de l'hypocrisie. Vous êtes malheureux, vous êtes honteux, vous essayez d'oublier votre honte dans l'alcool, la drogue et le reste, en faisant croire à tout le monde que tout va bien. Vous voulez savoir ce qu'un alcoolique pense? Parlez-y pas quand il est à jeun. Donnez-y quelques verres. Quand il est à jeun, il vous fait des beaux sourires. Et quand il est givré, il va peut-être vous dire qu'il vous déteste, qu'il ne vous a jamais aimé à la face. Il est tellement malheureux, tellement honteux de lui-même, tellement de mauvaise image de lui-même. Et quand il est à jeun, il n'est pas capable de dire ce qu'il pense. Et pour cacher sa honte, il joue à l'hypocrite, il fait semblant. Et pour être franc avec les autres, il ne doit pas avoir connaissance qu'il est franc en être. Et pour ne pas avoir connaissance qu'il est franc en être, il doit être givré. Et quand vous lui dites tout le mal qu'il vous a fait parce qu'il était complètement pété, il va prendre l'excuse, comme Adam et comme Ève. « Ah, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai trop pris. Ça a dépassé ma pensée. » Et Jésus nous réplique là-dessus. Hein? C'est du cœur de l'homme. Ouais. C'est du cœur de l'homme. Que sorte. Hein? C'est de la bouche de l'homme. Quelqu'un peut m'aider? Là, le verset m'échappe. C'est de l'abondance du cœur. Voilà. C'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Tes paroles n'ont jamais dépassé ta pensée. Si tu n'as pas été assez rapide pour les retenir, sinon tu contredis une parole de Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y en a d'autres, c'est dans la drogue. Une destruction beaucoup plus rapide. Il y en a d'autres, c'est dans d'autres folies que le monde leur offre. Et frères et sœurs, tout ça pour cacher une honte provoquée par une mauvaise image de soi qui vient du péché. Voilà pourquoi nous avons des gens qui étudient l'informatique afin de trouver un moyen d'effacer définitivement des choses qui se trouvent sur leur disque dur, parce que voyez-vous, ils ne veulent pas subir la honte qu'on découvre ce qui s'y trouve, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour eux. Nous avons tous des choses que nous n'aimerions pas que les gens connaissent sur notre passé, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que vous connaissiez toutes les pensées qui m'ont traversé l'esprit cette semaine. Le prédicateur bien connu James Vernon McGee, qui est décédé maintenant, qui avait une émission sur toutes les chaînes aux États-Unis, qui a écrit de nombreux livres, a dit un jour à ceux qui étaient venus l'écouter dans l'Église ceci. Je vais essayer d'imiter un peu sa voix. Si vous connaissiez mon cœur comme moi je le connais, vous ne m'écouteriez même pas. Il s'arrêta puis il dit, avant que vous vous dirigiez tous vers les portes de sortie, je dois ajouter ceci. Si je connaissais votre cœur comme vous le connaissez, je ne serais pas ici en train de vous parler. Frères et sœurs, il avait raison, hein? L'homme a perdu le jardin d'Éden. Et à partir du moment où il a perdu le jardin d'Éden, on s'est tous fabriqué un jardin secret. Un jardin que même nos femmes ne connaissent pas, que même nos maris ne connaissent pas. Des choses qu'on enfouit dans ce jardin qui se sont passées avant qu'on rencontre nos femmes, avant qu'on rencontre nos maris. Et donc, on aurait honte de leur dévoiler ce qu'il contient. Frères et sœurs, la désobéissance d'Adam nous a tous infectés. Nous vivons une vie compartimentée, c'est-à-dire que nous permettons aux gens de connaître de nous certaines choses, mais d'autres que nous ne voudrions pas qu'ils connaissent et que nous voulons tenir cachées à cause de la honte que nous ressentons pour ces choses du passé. Parce que lorsqu'elles sont mises en lumière, nous nous positionnons alors en victimes et nous accusons les autres. Vous vous rappelez ce qu'Adam a répondu lorsque Dieu lui a demandé s'il avait mangé du fruit? Regardez le texte ici. La première personne qui l'a accusé, la première personne qui l'a blâmé, c'est Dieu lui-même. Il a dit, « Seigneur, c'est de ta faute. C'est la faute de la femme, de cette femme que tu m'as donnée. Cette femme qui manque de volonté. Il a pris du fruit. Et qu'est-ce que moi je t'ai supposé faire? » Ben, finalement, il est arrivé à manger du fruit comme elle l'avait fait avant lui. « Seigneur, tu m'avais donné une meilleure femme. » Cela ne serait pas arrivé. Elle est aussi à blâmer que moi, Seigneur. Permettez-moi de vous dire ceci. Adam blâmait sa femme, même s'il n'y avait aucune chance au monde qu'il puisse être trompé d'avoir épousé la mauvaise. Avez-vous pensé à cela? Dieu va alors s'adresser à la femme. Pourquoi as-tu mangé? Elle va répondre, eh bien, le serpent m'a séduite. Qui a créé le serpent? Indirectement, elle accuse encore Dieu. L'homme a accusé la femme va accuser le serpent, et le serpent n'a pas de jambes pour être capable de se tenir debout et se défendre. Et toute l'histoire de l'humanité venait maintenant d'être écrite. Et à partir du moment, frères et sœurs, où le péché apparaît dans le monde, il faut trouver un coupable. Il faut trouver un coupable. C'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle, c'est la faute des enfants, c'est la faute du patron. Ce n'est jamais de ma faute. Vous êtes amen à ça? Je ne parle pas en tant que chrétien, là, hein? On est dans la zone où, avant de connaître le Seigneur, hein, ça s'en vient, le Seigneur. Mais on est comme ça, hein? Je me souviens très rarement quand mes parents sortaient. Hein, ils avaient 8 enfants, donc trouver une gardienne pour 8, c'est pas évident, hein? Mais quand ils s'absentaient un soir et qu'ils rentraient, qu'on avait brisé quelque chose parce que les 8, on s'était... Hein, la gardienne, hein? Oui. Occupe-toi de la gardienne et ses autres, ils partaient dans toutes les directions de la maison, hein? Et là, quand on brisait un bibelot, hein? Aïe, aïe, aïe. Et que la mère voulait savoir c'est qui avait brisé le bibelot. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui, hein? Ouais. Et le dernier, bien, il revenait au premier, hein? Et ma mère n'était pas capable de savoir c'était qui. Donc, elle devait imposer une discipline pour être en mesure de découvrir la vérité. Mais c'est ça, le premier Adam, hein? C'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Et on doit confesser humblement qu'il y a des chrétiens qui ont cette tendance aussi de jamais avouer qu'ils ont tort. De jamais avouer que c'est de leur faute. que c'est toujours de la faute des autres si le malheur leur tombe dessus. Vous dites amen à ça? C'est vrai, hein? Ouais, ouais. On a le premier Adam qui cherche à écraser le dernier Adam qui nous a sauvés, hein? Ouais. Ouais. Les gens vont se défendre jusqu'à leur dernier souffle. L'écrivain et dramaturge américain Arthur Miller a dit que nous insistons tous pour dire que nous sommes innocents, même si nous devions accuser l'univers tout entier. Nous allons nous défendre, nous allons donner du coude, nous allons jouer du coude. Si nous devons mentir pour nous en sortir, nous mentirons. Et si nous ne pouvons pas mentir, nous allons jouer sur les mots. Nous allons blâmer les autres parce que nous devons nous cacher devant Dieu. Parce que nous devons nous cacher de Dieu, nous devons nous cacher des autres. Et de nous-mêmes, frères et sœurs. N'oublions pas le problème, c'est notre conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va prendre l'initiative. Dieu va prendre l'initiative. Dieu n'abandonne pas l'homme à son triste sort. C'est pas extraordinaire, ça. Adam et Ève s'étaient peut-être dit, tu sais ce que nous allons faire, nous allons manger d'abord du fruit de l'arbre. Si ça ne fonctionne pas très bien et que les choses tournent mal pour nous, ben on a juste à repartir puis à arrêter par partir vers l'autre arbre, l'arbre de vie. Et de manger les autres arbres qui sont dans le jardin. Frères et sœurs, nous subissons les conséquences de cette décision. Nous pouvons lire une des choses que Dieu va faire dans Genèse chapitre 3, verset 24, pour ceux qui ont leur Bible. Il les chassa du jardin et il plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. La Bible nous dit ceux-ci étaient armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante devant garder l'accès à l'arbre de l'arbre de vie. Frères et sœurs, la grâce que Dieu a faite à nos premiers parents, à Adam et Ève, il leur avait dit, le jour où vous en mangerez, tu mourras certainement. Vous savez qu'il aurait pu les faire mourir immédiatement, physiquement. Mort terminée, on recommence avec du nouveau. Et ils sont morts spirituellement. Ils sont morts éternellement. Et ils sont morts physiquement, c'est-à-dire qu'ils sont devenus mortels. Voilà les trois sortes de morts que Adam et Ève ont connues. Ça devait être terrible. On ne peut pas s'imaginer ce qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Moi, j'endosse ce point de vue théologique qui dit qu'Adam et Ève étaient dans un corps glorifié dans le jardin d'Éden. Ils sont venus au monde sans péché, créés directement par Dieu. Vous pouvez vous imaginer ce qu'ils ont perdu. Vous pouvez imaginer là, ce voile qui les recouvrait, cette gloire de Dieu qui les recouvrait. Qu'à partir du moment où ils ont désobéi, les lumières se sont éteintes, les projecteurs du ciel sont disparus. Et là, hop, la peau est devenue différente. Il y a des plis qui ont commencé à apparaître. Ils ont senti les battements de leur cœur différemment. Les émotions qu'ils ont commencé à ressentir. Le mal qu'ils ont ressenti parce qu'ils avaient péché. Quel séducteur! Quel séducteur, frères et sœurs, le malin! Pourtant, il ne leur a pas dit... Quel mensonge, il y a une partie de la vérité dans ce qu'il leur a dit. Dieu vous a-t-il réellement dit? Simplement semer le doute. Dieu va les chasser parce qu'il ne voulait pas qu'ils mangent à nouveau du fruit de l'arbre de vie, car ils étaient devenus des pécheurs. Ils devaient vivre dorénavant avec leur corps devenu mortel sur la terre. Dieu va leur dire, vous ne pouvez pas revenir dans le jardin d'Éden. Vous ne pouvez pas redevenir comme avant. La question était maintenant la suivante, comment aller sortir de ce pétrin? Et Dieu va dire ceci, je prends l'initiative, je marche vers vous, je pars à votre recherche. Alors qu'Adam et Ève se cachaient parmi les arbres dans le jardin, nous dit le texte, Dieu va les trouver. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Et si vous avez commis un péché ce matin, que vous vous cachez de Dieu, je tiens à vous rappeler que Dieu est encore à votre recherche ce matin. Et comme dans le jardin d'Éden, Dieu n'est pas à votre recherche pour vous condamner, Dieu est à votre recherche pour vous amener à la repentance. C'est ce que Dieu cherchait ici. Hein? Ce n'est pas « arrête de te justifier, Adam ». Ève, tais-toi, arrête de te justifier. Reconnais, repens-toi, qu'on reparte sur de nouvelles bases. Ah, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, c'est de sa faute. Finalement, c'est de ta faute, Seigneur. Si tu n'avais pas créé la femme, je ne serais pas tombé. Puis la femme, si tu n'avais pas créé le serpent, je ne serais pas tombé. L'imbécile, c'est qui, Seigneur? C'est ni Adam, ni Ève, c'est toi, Seigneur. C'est ça, hein, quand vous lisez le texte biblique. Hein? Et Dieu, il vient. Ils l'entendent, ils se cachent. Tout ce que Dieu veut dans son amour, dans sa grâce, parce qu'il est gracieux depuis toute éternité, sa bonté existe depuis toute éternité, c'est des attributs qui appartiennent à Dieu seul. C'est de faire en sorte que les deux créatures qu'il a créées, Adam de ses propres mains, la seule créature qu'il a façonnée avec ses mains, les autres, il a dit, Adam, oh, Adam, tu vas être quelqu'un de particulier, l'homme est quelqu'un de particulier pour moi. Et Dieu l'a façonné. Adam, tout ce que je veux, c'est que tu te repentes, pas que tu te justifies. Et ce matin, c'est la même chose pour chacun de vous. Si vous êtes dans le péché ce matin, Dieu, ce qu'il veut, c'est pas que vous vous justifiez, ça mène nulle part. C'est pas que vous vous trouviez coupable, comme Adam et Ève. C'est pas que vous vous placiez dans une position de victime, mais que vous reconnaissiez votre péché, que vous vous repentiez et que vous veniez devant la croix remettre ce péché à Jésus, ainsi que la honte qui accompagne le péché. Et Dieu va vous faire grâce, parce que c'est un Dieu gracieux. Amen. C'est un Dieu gracieux. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ce que Satan leur avait dit était partiellement vrai. Ils savaient maintenant ce qui était mal. Ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Et depuis ce temps, frères et sœurs, les hommes sont à la recherche de feuilles de figuier pour se cacher, pour couvrir leur propre péché et leur propre impuissance face au péché. C'est ainsi que la vieille façon de procéder de la nature humaine continue et à cause de la sainteté de Dieu et du vide qui se trouve en eux, ils ne savent pas où aller, vers qui se tourner. Et c'est alors qu'ils prennent des feuilles de palme, des feuilles de figuier pour cacher leur mal, en empruntant la voie de l'alcoolisme, en empruntant la voie de la drogue, en empruntant d'autres voies. Et ça, c'est pour cacher leur mal-être. Et pire encore, frères et sœurs, pour mettre fin à leur jour. Le plus haut taux de suicide dans notre société aujourd'hui, la tranche d'âge, 12 à 18 ans, deuxième tranche d'âge, 70 à 85 ans. Intéressant, hein? Entre les deux, après 18 ans, tu rentres sur le marché du travail, pas de problème. Tu es bourré d'ambition. Tu vis que pour toi, souvent. Tu penses à te marier, ramasse du pécule, fais des voyages, achète une maison, achète des meubles. Les autres autour de toi n'existent pas pendant un certain temps, c'est la belle vie. Puis, rendu à 65 ans, hop, tu aperçois qu'il y a certains de tes copains qui commencent à mourir. Que tes enfants, ben, parce que tu les as élevés peut-être de façon égoïste, ils t'ont carrément abandonné. Ils attendent que tu meurs pour toucher ton héritage. Ils viennent te visiter à la maison de repos, pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils ont hâte que tu signes pour leur donner et faire don de ta maison. Et après, ils ne te verront plus, comme des gens me racontent ici à la maison de repos. Les gens qui ont, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu leurs enfants. Ils ne les ont pas vus à partir du moment où ils ont signé le document notarié qui leur donnait leur maison. Les enfants ont vendu la maison, la mère ne sait même pas ce qui s'est passé avec l'argent. Et pourtant, ils ont fait des gros mamots, des grosses caresses pendant 10 ans. Ils ont gagné la mère à l'usure. Et cette femme, elle a sombré dans une dépression, elle est morte bourrée de pilules. Les drames dans les maisons de repos, frères et sœurs. Et quand vous arrivez en 65 et 85 et vous êtes tout seul et que vous ne savez pas où vous allez aller, et que là, vous réalisez que le monde n'est pas si gentil que ça, que si on vous met dans une maison de repos, c'est parce que vous avez de l'argent. Si vous n'en aviez pas, vous seriez dehors comme un sans-abri, un vulgaire sans-abri, peu importe les lois qui sont votées. Eh bien, souvent, vous voyez comme finition, comme solution ultime de vous suicider. Frères et sœurs, heureusement qu'on a autre chose, d'autres attentes avec le Seigneur. Heureusement qu'on a d'autres attentes. Heureusement que l'Église, c'est aussi une famille, qu'on peut compter sur les uns et les autres, qu'on peut visiter les personnes âgées, qu'on peut prier pour elles, qu'on peut soutenir les malades dans la prière. Heureusement, Heureusement qu'on élève nos enfants de façon à ce qu'ils ne deviennent pas égoïstes. Heureusement. Heureusement qu'on les éduque dans les voies du Seigneur pour qu'on puisse compter sur eux plus tard. Parce qu'il y a un vieux dicton qui dit « Ne vous y trompez pas, c'est chacun son tour. » La roue, elle tourne. Hein? La roue, elle tourne. On est jeune, moins jeune, plus vieux. Et on finit par dépendre de tout le monde. On finit par dépendre les uns des autres. Mais on peut compter sur le Seigneur. Le chrétien peut dépendre et sait qu'il dépend du Seigneur. Regardez la réponse du Seigneur au verset 21. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il va l'en revêtir. Waouh! Mais où Dieu a-t-il pu trouver des habits de peau dans le jardin? Manifestement, Dieu a tué des animaux. Ce que Dieu est en train de dire dès le départ, c'est qu'aucune feuille de figuier ne peut effacer un seul péché. Vous ne pouvez pas effacer votre péché, peu importe jusqu'à quel point vous tenez caché votre péché. Seul Dieu peut le faire et il le fait finalement à travers le sacrifice de Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix pour effacer votre péché et pour effacer mon péché. Ce sera la réponse de Dieu au péché. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu oublie ce que vous avez fait. Maintenant, on va bien décortiquer le mot oublier. Le mot oublier, ce n'est pas que Dieu ne sait pas ce que vous avez fait. Parce que si que Dieu commence à oublier, on aurait des problèmes, il ne se souviendrait peut-être pas ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est le mot oublier dans le grec ici signifie que Dieu ne ramènera jamais, jamais à la surface ce que vous avez commis dans le passé, qui a été confessé, effacé, pardonné. C'est ça le mot oublier dans le sens de Dieu. Et c'est le mot oublier aussi dans notre sens parce que ça signifie pardonner. Tant qu'on remet dans la figure de quelqu'un ce qu'il nous a fait, on n'a jamais pardonné. Parce qu'on n'a pas oublié. Oublier, c'est dire, écoute, j'ai fait une croix ce que tu m'as fait dans le passé. Ça ne veut pas dire que je ne m'en souviens pas, mais jamais je vais le ramener à la surface pour te le mettre devant le visage. Jamais. Ça, c'est pardonner. Ça, c'est le pardon selon Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Tout ce que vous avez fait dans le passé, tout ce que vous avez confessé dans le péché, Dieu dit, je l'ai oublié. Jamais je vais le ramener en surface pour te rabaisser, pour te démonier, pour te détruire. Jamais. Il y en a un qui a été détruit, ramolli, abaissé, qui a payé pour que je puisse oublier. Amen. C'est important pour nous, frères et sœurs. C'est important. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Plus aucune condamnation. Et j'aime bien le mot en français courant. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis, qui vivent une relation étroite avec Jésus-Christ. Qui vit dans la sanctification, c'est ça, uni, en Jésus-Christ. Les deux ne font qu'une seule chair, les deux ne font qu'un seul être. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux-là. Je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà. Rapidement. Ça va être la réponse de Dieu au péché. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu peut nettoyer le gâchis provoqué par le péché d'Adam dans le cœur de tous les hommes. Et peu importe ce que vous avez vécu, Dieu peut nettoyer le gâchis que les gens ont fait dans vos propres vies, dans le passé. Il n'y a pas grand monde qui m'ont confessé ici qu'ils avaient été abusés jeunes. Mais si je me base sur l'expérience que j'ai vécue au service d'aide à la famille, à l'Armée du Salut, 8 femmes sur 10 qui venaient me rencontrer dans mon bureau me disaient qu'elles avaient été abusées sexuellement. 8 sur 10. Et c'est un fléau dans notre société aujourd'hui. C'est un fléau incroyable. Et il est dommage que la justice prenne ça à la légère. Parce que ça marque des femmes. Ça tue psychologiquement des femmes. Et ça prive les maris d'une vie de couple souvent. Une vie de couple que Dieu aspire à ce qu'un couple puisse avoir. Et parce que des maris ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans le passé avec leurs femmes, eh bien, ils les traitent d'une manière qu'ils ne devraient pas les traiter, parce qu'ils ne comprennent pas le comportement. Et quand je vous dis que 8 femmes sur 10, j'exagère pas. 8 femmes sur 10, par un frère, par un père, par un oncle, par un étranger, invité à la maison. 8 femmes sur 10. Il y a des garçons qui sont abusés par leur mère. Il n'y a pas juste les hommes qui sont pervers. Les femmes aussi peuvent être perverses. Il y a des mères qui couchent avec leurs garçons pour les empêcher de se marier un jour, pour les garder pour elles. J'ai eu des confessions. Frères et sœurs, quel gâchis! Quel gâchis! Je parle d'abus. Un attouchement sur une petite fille de 2-3 ans, un attouchement. Il va traîner ça tout pendant des années, des années, des années. Mais Dieu est capable de réparer ce gâchis en Jésus-Christ. Il est capable. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu est capable de nettoyer le gâchis provoqué par le péché de quelqu'un sur votre personne. À la croix, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais notre conscience est purifiée de tout mal. Nous avons maintenant la liberté d'entrer dans la présence de Dieu grâce au sang versé par Jésus sur la croix, qui nous a couvert, nous a ouvert un chemin nouveau. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dit Hébreux chapitre 10, les versets 18 à 22. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. Seigneur, prends ma honte, prends mon péché, prends ma blessure, Seigneur. Maintenant, vous pouvez tout dire ça et que ça reste la même chose. Mais il y a une promesse dans la parole, le juste vivra par la foi. Vous devez croire que c'est vrai. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas le pasteur, c'est la parole qui le dit. Christ a pris sur lui la honte qui était rattachée à la croix. C'est ce que la parole dit. Et il faut le donner. Et pardonner à celui qui a fait tellement un gâchis dans votre vie. Et vous pardonnez aussi. Cela ne se finit pas qu'il n'y aura pas de conséquences à votre péché, si c'est votre cas ce matin. Aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas retrouver votre virginité, vous ne pouvez pas rétablir la réputation de quelqu'un que vous avez détruite, et vous ne pouvez pas prier comme cet adolescent qui disait « Oh Dieu, je prie que cet accident n'ait jamais eu lieu ». Mais ce qu'il y a d'important à saisir, c'est que Dieu vous a pardonné, Dieu vous a pardonné. Lorsqu'Adam et Ève ont été couverts par Dieu, est-ce que cela signifiait que tout était réglé, que tout allait pour le mieux entre eux? Écoutez, j'essaie juste d'imaginer le soir, quand ils sont rentrés dans leur maison et qu'ils ont, je suis convaincu qu'ils ont eu une discussion assez houleuse et qu'ils se débattaient ensemble afin de savoir qui avait été fautif dans toute cette histoire. La nature humaine, elle est là maintenant. Elle est là. Et on négocie avec la conscience. Et là, c'est de trouver un coupable. C'est toi qui as mangé du fruit la première. Ouais, mais c'est toi qui étais à côté de moi. Tu n'as même pas intervenu, Adam. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as fait? Ça vous rappelle-tu des scènes de ménage, ça, des fois? Hein? Parle au couple marié, là. Hein? C'est vrai que j'étais à côté de toi, mais tout de même, c'est toi qui as pris la première bouchée. Arrête de me pointer du doigt, Adam. Tourne-le vers toi. Est-ce que Dieu n'a pas dit que c'est toi qui étais le chef de la maison? Tu n'as pas assumé tes responsabilités. Et effectivement, Dieu tiendra Adam responsable. As-tu fait quelque chose pour m'empêcher d'en manger? Comment est-ce possible que tu sois encore à côté de moi après tout ce que tu as fait, Adam? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pouvez-vous juste imaginer la scène? Heureusement qu'il n'y avait pas d'enfant. Il est vrai que le fait d'avoir été recouvert par Dieu signifiait qu'il pouvait avoir à nouveau une relation avec Dieu. Mais tous les problèmes humains qui se rapportent à la conscience continuent à bouillir à l'intérieur de leur maison. Adam et Ève auront à élever Caïn. Et quelle expérience douloureuse ce sera! Oh, Adam, regarde ce que ton fils... Oh, Ève, Adam dira à Ève, oh, Ève, regarde ce que ton fils a fait aujourd'hui. Ève, tu sais que c'est toi qui as porté pendant 9 mois cet enfant. Tu sais que c'est toi qui as passé plus de temps avec moi. Tu sais que c'est toi qui as passé ton temps à t'occuper de son éducation alors que moi je travaillais dans les champs. Durant le jour, à suer, à la sueur de mon front. Rappelle-toi ce qui est arrivé. Ève, Caïn a tué Abel. Toute l'histoire de la race humaine, frères et sœurs, tombe en morceaux lorsque le mal prend le dessus sur l'homme. Et vous et moi, nous sommes pris dans cet immense contexte de méchanceté qui règne sur la terre aujourd'hui. Nous sommes nés avec le péché qui habite en nous. Nous péchons tous avant de connaître le Seigneur et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole. Nous luttons contre notre conscience qui nous rappelle quelle est cette lampe que Dieu a placée dans le cœur de l'homme pour sonder les profondeurs de son âme. En théologie, on l'appelle la conscience, c'est l'étincelle divine qui est dans le cœur de l'homme, l'étincelle divine. Je trouve que c'est bien, c'est une belle expression. Dieu n'a pas abandonné complètement l'homme à son sort. Première, ceux qui aiment les dispensations, première dispensation d'innocence. Deuxième dispensation de la conscience. Hein, il en reste 5 autres. conscience, avant qu'on donne la loi, avant que la grâce vienne aussi, et tout le reste. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour corriger le gâchis d'Adam et nous donner de l'espoir. Et la grande question ce matin, ce n'est pas la gravité de votre péché, parce que vous pouvez être dans cette salle et avoir commis le plus grave des péchés et penser que Dieu ne peut pas vous pardonner ce matin. Comment allez-vous réagir le jour où vous allez entrer au ciel et que vous découvrirez que certains hommes, que certains des hommes, des exécuteurs d'Hitler, qui ont commis les pires atrocités, vont passer l'éternité avec vous? Allez-vous leur demander ce qu'ils font là? Eux pourraient venir vous trouver en retour. Vous serrez la main, vous demandez, pourriez-vous me dire à votre tour ce que vous faites ici? Il y a un pasteur luthérien pendant le procès de Nuremberg qui a demandé l'autorisation de visiter les 15 officiers. 15 officiers très proches d'Hitler qui attendaient leur procès, de pouvoir les visiter. Pendant toute la durée du procès, on lui a donné toute la liberté de pouvoir les rencontrer chacun dans leur cellule. Sur 15 criminels de guerre endurcis qui ont participé à l'assassinat de millions de personnes, 8 ont pris une décision sincère pour Jésus-Christ. 8 se sont mis à genoux, la Bible dans les mains, en pleurant, confessant leurs péchés. Et j'ai aucun doute, je n'ai pas à douter de la parole de ce pasteur, avec tout ce témoignage qu'il donne, qui est écrit dans un livre. Les 7 autres ont renié Jésus-Christ jusqu'à la fin. Ils ont cru en Hitler, même s'il était mort. Mais 8 des pires, qui font partie de la pire liste des criminels de guerre, qui ont été condamnés, certains à mort, d'autres à prison à vie, d'autres qui ont été innocentés, eh bien, seront un jour au ciel avec vous et avec moi. Qu'en pensez-vous? Il y a un pédophile très bien connu en Belgique, qui est détesté par tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un Belge qui ne serait pas d'accord pour qu'on mette la peine de mort uniquement pour lui. Qu'est-ce que vous diriez si il donnait sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous accepteriez de passer l'éternité avec lui? Si c'était le premier individu que vous croiseriez au ciel en vous présentant devant Dieu? Est-ce que la grâce n'est pas réservée à tous, frères et sœurs? Un abuseur d'enfants qui a participé à l'assassinat de 2 jeunes filles? Frères et sœurs, l'être humain, même s'il a été gracié, pardonne souvent plus difficilement que Dieu peut pardonner. Oublie plus difficilement que Dieu peut oublier, mais condamne beaucoup plus rapidement que Dieu peut condamner. Dieu veut que tous parviennent à la repentance, même les pires déchets de la société. Dites amen à ça. Parce que, frères et sœurs, la grâce est maintenant offerte à tout être humain sur cette terre. Et il nous arrive aussi d'être beaucoup moins gracieux que Dieu puisse être gracieux envers les êtres humains, envers les frères et sœurs. Dans chaque message que j'apporterai dans cette série, je vais vous donner quelque chose à mémoriser. J'aimerais vous donner le texte à apprendre pour la semaine prochaine. Vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas à l'école. Ce sont les versets 1 et 2 du psaume 32. Tournez avec moi dans le psaume 32, ceux qui ont leur Bible. Deux versets qui s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes. Et pendant que vous tournez, je vais attendre que vous... J'attends de plus de feuilles, tournez. Je vous citerai ces deux versets, parce qu'ils ont été écrits par quelqu'un qui a commis un meurtre et qui a commis un adultère. Était-il possible de nettoyer ce gâchis qu'il avait fait? Oui. Et Dieu a restauré la joie de son salut parce qu'il a purifié sa conscience. Voici ce qu'a écrit David. Heureux, je vais la lire en français courant. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute. Décharge de sa faute. et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Frères et sœurs, voilà deux versets à apprendre par cœur. Hein? Dans Louis II, c'est « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point le péché, l'iniquité, pardon, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Mais j'aimais bien la français courant, je vous lis là en français courant, « Que Dieu décharge de sa faute, écrasé par le poids de la culpabilité. Écrasé. Et Dieu décharge de sa faute. » Quelle belle expression. Dieu le décharge de sa faute. Il est libre. Il est libre. Ah, je revis. Magnifique, n'est-ce pas? Il revit parce qu'il est pardonné de tout mal qu'il a commis. Ah, je ne regarde plus en arrière ce que j'ai fait. Je regarde en avant sur les promesses de Dieu. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. Merci Jésus d'avoir pris cela pour moi. Jésus est monté dans la chambre haute et il a dit à ses disciples, juste avant sa mort, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » On l'a vu ce matin. « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Voici la coupe que je vous présente, symbolisant mon sang qui sera versé dans quelques heures pour vous, pour couvrir vos péchés. Je vais vous renouveler afin que vous puissiez avoir une conscience pure et que vous puissiez vous réjouir indépendamment de ce que vous avez fait dans le passé. » Voici ce que nous avons à l'ordre du jour pour le premier message. On va regarder. Si vous voulez la lire, c'est dans 1 Samuel. On va regarder l'histoire de Tamar la prochaine fois. Tamar qui a été abusée par son frère aîné, le premier des fils de David, et qui aura supporté toute la honte de son frère. Parce que David, s'il était un bon roi, il était un très mauvais père. Et on verra ce qui s'est passé. La honte rattachée au péché, ça fait partie d'une conscience pure. Et je pense que c'est une série, en tout cas, en regardant cette série, en la préparant, elle m'a fait du bien et elle m'a rappelé qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de gens qui sont sous la condamnation, qui vivent sous la honte, qui sont en crise d'identité terrible, qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Des gens qui, au niveau de leur valeur personnelle, qui n'en ont pas du tout. Une fille que j'ai rencontrée qui pratiquait la prostitution dans une vitrine à Liège, qui passait entre 20 et 50 clients par jour, qui était anorexique. Déjà, l'anorexie, ça dénote un gros problème d'identité, mauvaise image de soi. Et je vais le dire poliment, je ne serai pas vulgaire, mais quand je lui ai dit, « Mais comment tu te ressens pour passer entre 20 et 50 hommes par jour? » Vous savez ce qu'elle m'a dit? Un trou, c'est un trou. Quand une femme te dit ça, hein, ça veut dire une poubelle. C'est une poubelle. C'est épouvantable. Frères et sœurs, la solution, le Seigneur, il l'a donnée à ceux qui lui appartiennent pour rencontrer ces gens-là, pour leur montrer qu'ils ne sont pas des poubelles, mais que Dieu est capable de nettoyer l'intérieur de ceux qui... Et vous savez que la poubelle, ce n'est pas juste de décharger des choses dedans, c'est l'odeur qui se dégage d'une poubelle, hein. Vous imaginez l'image que cette femme-là avait d'elle-même. Et là, quand vous écoutez son arrière-plan familial, vous comprenez, hein? Vous comprenez. Et frères et sœurs, c'est vrai que la psychologie vient en aide aux gens, mais seul l'Évangile peut libérer ces personnes. Faire en sorte qu'elles ne se perçoivent pas uniquement comme des victimes, mais comme des gens que le Seigneur veut restaurer, comme des gens que le Seigneur veut guérir, que des questions veut rétablir à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est un de vos ministères. Et vous n'avez pas besoin de suivre de cours de formation pour cela. Laissez-vous former par le Seigneur dans sa parole. Jésus qui dit aux gens, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Oh, combien le Seigneur, à travers Jésus, connaissait l'être humain. Vous pouvez montrer des beaux visages, souriants. Mais je sais que vous avez votre cœur, il est chargé, il est fatigué de porter ce lourd fardeau. Arrêtez. C'est votre cœur que je vois. Et c'est ce que le Seigneur veut nous amener. Voir, lire, être capable de lire dans le cœur des gens. Dans le cœur, c'est l'envers du sourire. C'est une tristesse à mourir. Je vous ai déjà dit que le meilleur bouffon, le pire bout en train qu'il y avait à notre poste de police quand j'étais dans la police, hein, 150 policiers dans notre poste, il nous faisait rire. Tout le monde, il faisait rire. Il nous faisait rire. Et un matin, j'apprends la nouvelle qu'il avait pris 6 canettes de bière, qu'il est allé au cimetière, s'est assis sur la pierre tombale de son père. On a tous été surpris. Pour nous, on pensait que ce serait le dernier qui ferait ça. Ouais, son cœur saignait. Frères et sœurs, ne vous fiez pas au visage des gens. Demandez à Dieu qu'il vous donne la capacité de lire dans le cœur des gens. Et vous allez être un outil de guérison entre les mains de Dieu pour restaurer, pour relever, pour encourager des gens qui sont tombés et qui demeurent dans la misère depuis tant d'années à cause de toutes sortes d'abus. Frères et sœurs, ça fait partie du mandat de l'Église. Vous dites amen à ça? Oui. Soyons sensibles à ça. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que je vous ai lu dans Actes chapitre 2, tantôt 47-48, que nous puissions agir comme l'Église primitive faisait à l'époque. Elle se réunissait ensemble. Elle n'était pas fermée sur elle-même, mais elle allait dans le monde. Elle était capable de lire dans le cœur des gens parce que Dieu avait d'abord auparavant su lire dans leur cœur et pouvoir guérir, finalement, apporter leur guérison. Et à partir du moment où leur guérison, ils ont reçu cette guérison de la part du Seigneur, ils ont été capables d'apporter la guérison aux autres. Et on verra ça à travers les autres messages. Que Dieu puisse vous bénir abondamment ce matin et nous rappeler que notre nature humaine, eh bien, le Seigneur, il a vaincu à la croix. Il nous a donné sa nature à lui. Et par son esprit, il habite en nous. Et par son esprit, il nous donne la capacité de marcher avec lui, de pouvoir lui obéir et de pouvoir proclamer cette victoire qu'il a remportée non seulement sur la croix, mais aussi sur la mort lors du dimanche de Pâques. Amen. Je vous invite à vous lever.